Donc, chapitre 21, verset 4, et nous allons lire jusqu'au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Le monde, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le monde a connu une prospérité considérable. Sur le plan économique, les marchés financiers ont augmenté d'année après année, jour après jour, et ont atteint jusqu'à il n'y a pas longtemps des sommets inégalés. Aussi, sur les dernières années, les 20 ou 30 dernières années, grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie a également fait des progrès considérables. Et il n'est pas rare maintenant de voir des gens qui vivent jusqu'au-delà de 100 ans. Donc je dirais que même si tout n'allait pas parfaitement bien, jusqu'à quelques semaines, il n'y avait quand même pas trop de problèmes. Et puis tout à coup, il y a cette crise du coronavirus qui est venue, comme on dit, dans un ciel bleu. Et plus qu'un coup de tonnerre, c'est une sorte d'ouragan et on n'en voit pas la fin. Les nombres de morts augmentent sans cesse. Ils ont été jusqu'à plus de 800 par jour en Italie il n'y a pas longtemps, ou environ 800. En France, ils sont, je crois, plus de 150. Ici, en Angleterre, ça monte aussi. Et sans parler de l'Espagne. Et donc, autour de nous, évidemment, comme on en a parlé, beaucoup sont malades. Beaucoup de frères et sœurs sont atteints par cette maladie. Et puis, comme pour ajouter l'anxiété à l'inquiétude, bien les mesures de protection sanitaire de nos gouvernements, qui sont certainement des bonnes mesures, et nous les respectons, parce que nous respectons les autorités, mais ces mesures, bien, elles ont un coût, c'est qu'elles ont provoqué une crise financière, qui est une crise mondiale, comparable à celle de 2008, peut-être encore plus grave. Et beaucoup, à cause de cette crise, se retrouvent au chômage forcé, et ils sont remplis d'angoisse à leur capacité à subvenir à leurs besoins, à l'avenir de leur travail. Et donc le monde, tel qu'on le connaissait, semble s'effondrer sous nos pieds. On prend peur pour notre santé, on prend peur pour la santé de nos proches, on prend peur pour notre subsistance. Alors, pour un chrétien, il est légitime dans ces circonstances de se poser trois questions. Première question, Dieu est-il à l'origine de tout ça? Dieu est-il à l'origine de tout ça? Deuxième question, si Dieu est à l'origine de tout cela, est-ce que c'est un châtiment qu'il envoie et pour quelle raison? Et troisième question, quelles leçons les hommes, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens ou pas chrétiens, doivent-ils tirer de tout cela? Donc regardons la première question. Est-ce que Dieu est à l'origine de ce qui nous arrive? Et la Bible répond clairement oui à cette question. En Ésaïe 45, je lis pour vous au verset 6 et 7, la parole nous dit ceci. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Un autre passage dans le livre d'Amos nous dit, chapitre 3 et verset 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Même l'événement le plus terrible qu'on puisse imaginer dans toute l'histoire, c'est-à-dire la mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ, même cet événement était entièrement sous le contrôle de Dieu et il l'avait planifié. Ainsi nous lisons dans Actes 4, versets 27 et 28, je lis dans la version Osterwald, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient auparavant déterminé devoir être faites. Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient déterminé auparavant devoir être faites. Dieu n'est surpris par rien. Il est en contrôle de tout. Il n'y a pas dans l'univers une molécule indépendante. Il n'y a pas un électron libre, comme on dit. La course de la plus petite des particules est connue depuis toujours par Dieu et il la contrôle. Dieu donne la prospérité, mais aussi il crée l'adversité. Et l'épidémie actuelle, nous pouvons en être certains, elle fait partie des choses que sa main et son conseil ont déterminées auparavant devoir être faites. Nous ne sommes pas dans un univers qui est en proie à la lutte entre Dieu et Satan, et parfois c'est Dieu qui gagne, et parfois c'est Satan qui gagne. Est-ce que si Satan a gagné? Non, Dieu gagne toujours, toujours. Satan ne fait rien sans la permission de Dieu. Regardons ensuite la deuxième question, puisque nous savons qu'effectivement Dieu est à l'origine de ce qui nous arrive. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette crise est un châtiment de Dieu? Et oui, si oui, pourquoi? Pourquoi ce châtiment? Alors la mort est toujours un drame. La mort est toujours un drame. Certains d'entre vous travaillent en milieu hospitalier, ils ont peut-être assisté, ils ont certainement même assisté au décès de personnes atteintes de cette maladie. Et vous vous êtes demandé, qu'est-ce que cette personne a fait pour mériter ça? Cette dame était si gentille, ce monsieur était si doux et si inoffensif et sans défense. Puis vous avez assisté à la détresse des proches et vous vous êtes dit, comment Dieu peut-il permettre tant de douleurs? Et puis aussi l'angoisse de ceux qui n'ont plus de travail, qui ont une santé fragile, qui ont peur de tomber malade, qui ont peur que leurs proches tombent malades. Et cela touche des frères et des sœurs, et on se demande pourquoi, Seigneur. Alors il y a, ça me fait penser à ce que disait un pasteur. Il parlait en fait d'un livre qui avait été publié aux États-Unis, dont le titre était Pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question comme ça, pourquoi ces mauvaises choses arrivent à ces gens qui sont si bien finalement? Mais ce pasteur avait dit qu'en fait le titre était mal posé, que la bonne question c'était plutôt pourquoi de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes. Et ça c'est la façon chrétienne de poser la question, c'est pourquoi de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes. En fait l'humanité n'est pas en droit de réclamer que Dieu, de réclamer de Dieu que de bonnes choses lui arrivent. Elle devrait se demander plutôt pourquoi Dieu ne l'a pas châtié plus tôt. J'ai parlé du fait que nous avons connu en gros 10 ans de grande prospérité, de croissance mondiale, de progrès de l'espérance de vie, etc. Mais ça s'est accompagné d'un incroyable endurcissement du cœur des hommes. Dans ces 10 dernières années, encore plus qu'avant, dans le pays où je me trouve, un bébé sur quatre est mis à mort dans le ventre de sa maman. Et je pense que c'est pareil en France. Dans les 10 dernières années, on a vu aussi les relations entre les personnes du même sexe en quelque sorte célébrées et encouragées par le monde, alors qu'elles sont décrites par la Bible comme de graves péchés. Au Royaume-Uni, où je me trouve tout récemment, Franklin Graham, le fils de Billy Graham, donc qui est comme son père un évangéliste, s'est vu interdire de faire des réunions d'évangélisation dans les 8 plus grandes villes du pays, à cause de ses positions sur ce sujet du mariage homosexuel. L'hostilité contre le christianisme authentique va grandissante partout. On l'a vu dans le monde occidental, mais également dans les pays du Sahel, où on sait qu'il y a notamment les tribus Fulani, des massacres de chrétiens en masse, en Algérie, vous le savez très bien, et mieux que moi, au Pakistan, en Inde, en Chine. Mais toutes ces choses, finalement, elles ne sont que le sommet de l'iceberg. En fait, ce ne sont que des fruits qui décrivent la nature de l'arbre. Et l'arbre est mauvais. Ces choses montrent l'inimitié profonde de l'homme envers son Créateur. Et cette inimitié, elle se manifeste depuis le jardin d'Éden et elle s'appelle le péché originel. Alors, est-ce que c'est un châtiment qui vient de Dieu? Certainement. La Bible est remplie de châtiments de Dieu sur les hommes à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y en a tout le long de la parole de Dieu. Le déluge, les plaies d'Égypte, la destruction de Canaan par les Israélites, La captivité de Juda à Babylone, la destruction de Jérusalem par les Romains en 70, après Jésus-Christ, qui avait été annoncé par Jésus. Toutes ces choses, il y en a plein d'autres qui sont des châtiments de Dieu envers le monde à cause de l'endurcissement du cœur des hommes. Alors maintenant, troisièmement, quelle leçon devons-nous tirer de tout cela? Quelles leçons devons-nous tirer de tout cela? Elles sont nombreuses, mais je voudrais insister sur une en particulier ce soir. Et la leçon, c'est la suivante. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce que Dieu est miséricordieux. La leçon que nous devons tirer de cette épidémie, d'abord et avant tout, et ça s'adresse aux non-chrétiens, mais aussi aux chrétiens. Repentez-vous. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu envoie ses châtiments sur le monde pour juger le monde. C'est ce qu'il a fait lors du déluge. Et c'était terrible. Et ce jugement de Dieu sur le monde, c'était un jugement qui était sans appel. Pour eux, il était trop tard, Dieu avait rendu son verdict. Et le déluge, il montre et pointe directement au jugement dernier, qui sera aussi un jugement sans appel. Mais la parole nous enseigne que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il n'est certainement pas sadique. Ainsi, voilà comment parle la parole en Ézéchiel 18-23. Et c'est Dieu qui parle. Et il dit, prendrai-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Voilà ce que le Seigneur veut, c'est que, non pas devoir châtier l'homme, mais que l'homme se détourne de ses voies et qu'il vive. Et se détourner de ses voies, ça veut dire se repentir. Alors, si Dieu envoie des châtiments sur le monde pour le juger, il envoie aussi des châtiments sur le monde pour le réveiller. Et pour que le monde tourne ses regards vers lui. Les non-chrétiens, et aussi les chrétiens, comme vous voyez, nous le faisons tous les soirs, alors que naturellement, on ne le fait pas. Le monde, en quelque sorte, fonçait tête baissée dans sa course au plaisir et à l'enrichissement. Mais Dieu l'a arrêté tout net, brutalement, d'une façon spectaculaire. Tout s'est arrêté. Tout ce en quoi le monde se confiait est remis en question. L'économie s'effondre. Les fêtes sont interdites. Les vacances, les gens partent plus en vacances. La mort guette même. Et Dieu dit au monde comme un enfant, comme un papa qui prendrait dans ses bras puissants un enfant surexcité pour le calmer, il lui dit, vas-tu m'écouter maintenant? Et à ceux qui regardent cette vidéo, Dieu nous dit ceci, vas-tu m'écouter maintenant? Vas-tu écouter ce que j'ai à te dire? C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans l'épisode des serpents brûlants. Dieu n'avait cessé de bénir ce peuple depuis leur sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les sources d'eau à plusieurs reprises, la manne tous les jours, la loi, le tabernacle. Mais pour la énième fois, le peuple s'était rebellé contre Dieu et contre Moïse. Alors Dieu leur envoyait des serpents brûlants, des serpents venimeux. Quelle était la réaction du peuple? Bien, le peuple est allé voir Moïse et lui a dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Cela s'appelle le repentir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Moïse de faire ce serpent en fer forgé, et ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. Ce peuple méritait d'être détruit, mais Dieu leur a répondu avec miséricorde, parce qu'ils se sont repentis. Tout le monde aimerait bien que cette épidémie s'arrête. Que Dieu aussi nous donne en quelque sorte un serpent en fer forgé, puis ceux qui le regarderaient seraient guéris de la maladie. Mais nous sommes atteints d'une maladie beaucoup plus grave. C'est la maladie du péché. Et cette maladie, elle conduit à la mort physique, mais elle conduit surtout à la mort éternelle. Elle conduit à l'éternité séparée de Dieu. Elle conduit à l'enfer. 1500 ans après Moïse, Jean nous rapporte que Jésus a dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moïse avait élevé le serpent sur une perche pour que tout le monde le voie, et ceux qui le regardaient étaient guéris de leur maladie. Et Jésus lui aussi a été élevé sur une croix. Et sur cette croix, il est mort à la place du pécheur. Et c'est lui qui le regarde, qui regarde Jésus sur cette croix et qui met sa confiance. Dans son sacrifice, il ne périra point. Mais il aura la vie éternelle. Et il sera guéri de la mort éternelle. Il sera guéri de beaucoup plus que de l'épidémie, mais il sera guéri de la mort éternelle. Alors Dieu nous parle dans cette épidémie. Il nous arrête dans tout net dans notre folie et notre excitation. Et il nous dit, écoute-moi, cette épidémie te montre combien ta vie est fragile, combien tout ce en quoi tu mets ta confiance, ton argent, ton travail, tes fêtes, tes vacances, ta santé, tout ça est fragile. Je peux et puis ça disparaît. Et toi aussi, tu aurais pu mourir dans cette épidémie. Mais tu es encore vivant pour m'écouter. Alors, Dieu nous dit, à nous qui sommes vivants pour l'écouter, mets ta confiance en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur, je vais prier le Seigneur et puis ensuite, nous nous quitterons. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons même te remercier pour cette épidémie que tu envoies parce qu'elle nous amène à tellement réfléchir, à nous poser tellement de questions. Et certainement, Seigneur, que ceux qui sont atteints dans leur chair par la maladie se posent encore plus de questions, ils sont encore plus tournés vers toi, comme nous le voyons, le message que notre bien-aimé Albert a envoyé. Nous voyons combien leur cœur se tourne vers l'Éternel. Comme disait Corrie ten Boom, c'est quand on a tout perdu qu'on se rend compte que Jésus est tout ce que nous avons et tout ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous te remercions pour ça et nous demandons, Seigneur, que cette épidémie touche des cœurs. La plupart des hommes vont sans doute se rebeller contre toi à cause de cela, mais nous demandons, Seigneur, que quelques-uns, à cause de cette épidémie, se tournent vers toi et comme le peuple d'Israël dans le désert se repentent. Alors Seigneur, évidemment, nous demandons que tu guérisses physiquement. Mais surtout, Seigneur, nous demandons que tu guérisses spirituellement. Que tu sauves des personnes spirituellement de l'enfer, de la mort éternelle, à cause de cette épidémie. Puis Seigneur aussi, que ce soit une occasion, que tu utilises cette épidémie pour renforcer la flamme dans notre cœur. Que nous t'aimions encore plus, que nous nous tournions encore plus vers toi. Que nous soyons encore plus dépendants de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous te remercions pour tous tes bienfaits. Et nous demandons, Seigneur, maintenant de bénir cette soirée, bénir notre nuit et protéger tout un chacun, en particulier les malades. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.